Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, le Orechem, Tovim, Shanim, Naimim. Nous poursuivons notre étude de Parashat Mishpatim. À présent, nous allons nous pencher sur l'interdiction de cuire le lait et la viande. Alors, qu'est-il dit ? Il est dit, au chapitre 23, il est dit qu'il faut faire trois fêtes. Shalosh pe'amim bashana yera'e kol zechurcha et pene adon adonai. Donc il y a ici une injonction que tous les hommes doivent monter au temple aux trois fêtes de pèlerinage qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot. Après il est dit lo tisbah al hametz dam divrei. Tu ne feras pas le sacrifice de l'agneau pascal, le korban Pessah, quand tu possèdes encore du chametz. C'est-à-dire que le issour, l'interdiction de posséder le chametz commence le 14 Nissan à la mi-journée, Minatora, à l'instant où commence la mitzvah de sacrifier l'agneau pascal, le korban Pessah. Et puis il est dit, Réchid bikore admatecha, les prémices, les premiers, le début des prémices de ta terre, ta vie bet Hashem Elohecha, tu les apporteras à la maison de Dieu. Donc il s'agit des prémices que, à partir de Shavuot, il faut les sept fruits d'Israël, il faut apporter les prémices, les premiers fruits qui ont commencé à mûrir sur l'arbre, on les choisit et on les apporte après en procession jusqu'au temple. Et il est dit, à la fin de ce verset, donc c'est le début du verset, « Réchid bikure admatratavi bet Adonai Elohecha » et le verset conclut, « Lo tevashel gedi bahalev imo » Tu ne cuiras pas l'agneau dans le lait de sa mère. Ici, il est dit que le cuir, l'interdiction est exprimée, alors qu'il y a trois fois cet interdit-là est répété à trois reprises. Ici, dans notre parashat Mishpatim, puis il est répété mot pour mot dans parashat Kitissa au chapitre 34, verset 26, le même pasouk mot à mot, Réchid bikure admatra tavi bet Adonai Elohecha. Le même verset. Et qui a été précédé aussi par Shalosh Permim Bashana. Il faut monter au temple trois fois par an. Lotishat al-Hames Damzifri, etc. Loyalin al-Boker Zeva Haga Pesach. Réchid Bikorad Matrat Aviben. C'est exactement pratiquement ce verset-là est dit mot à mot. Et répété mot à mot. Mot pour mot. Et la troisième fois, il est mentionné dans Parashat Re'e. À la fin, Parashat Re'e, à la fin des interdictions de l'alimentation, là où la Torah indique les animaux permis à la consommation et ceux qui sont interdits. Alors là, il est dit, le verset est quelque peu différent. L'otochlo kol nevela. Vous n'avez pas l'interdiction de manger un animal qui est mort, mais qui n'a pas été égorgé avec la shrita. Alors il faut le donner. La guerre à Shabbat, donc tu le donneras à l'étranger qui est dans ton territoire. Ou tu le vends à un ochri, qui est un kadoshata la Hashem Elohecha. Parce que toi, vous pouvez pas manger cet animal-là, cette viande-là. Parce que vous êtes un peuple saint. L'autre Vachel Gedi, Bahalavimo, et là il est dit, c'est la conclusion de ce verset, vous ne cuirez pas l'agneau dans le lait de la mère. Donc pourquoi il est dit trois fois? Chachamim nous disent, trois interdits de cuire, de manger et d'en tirer profit. Pourquoi la Torah a... L'étonnement, c'est que la Torah n'a pas exprimé l'interdiction de manger. Elle n'a pas exprimé l'interdiction de profiter. Ces trois interdictions sont exprimées par le terme cuir. Alors, à quoi cela fait référence? De plus, pourquoi il est dit l'agneau? L'agneau dans le vent, dans le lait de sa mère. Pourquoi l'agneau? Et pas la viande. Il aurait fallu dire, puisque tout est interdit. La Gemara déduit que l'interdiction est globale. Toutes les viandes sont interdites d'être cuites dans le lait, et n'importe quel lait. Alors, évidemment, il s'agit d'animaux purs, cachers, qui sont autorisés à la consommation. C'est le mélange des deux qui est interdit. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'agneau, il peut s'agir de la vache, etc., de n'importe quelle, et même si c'est pas exactement le lait de la mère. Alors pourquoi c'est exprimé ainsi et pourquoi c'est pas exprimé par interdire de cuire, interdiction de manger, l'otochlo basar vechala, etc. Pourquoi il est dit à chaque fois le terme employé pour exprimer cet interdit, c'est le verbe cuire. Alors cette idée-là, quel est le sens de cet interdit et quelle est la raison de cet interdit? Alors il y a les Mfarshim. Alors le Ramban indique que il explique pourquoi il est dit Bahalevimo. Il dit parce que le lait, la bête qui a du lait, elle est dans le statut de mère. Donc le fait le lait est produit parce que cette bête-là, elle a mis au monde, elle a mis bas. Donc cette situation de la bête qui le lait est produit par la mère. Donc quand un agneau tète du lait de la mamelle, même si ce n'est pas sa mère, alors la bête qui donne, cette bête-là, elle est dans une situation d'être la mère de cet agneau-là. Et tout celui qui tète est considéré comme étant l'agneau. Même si c'est une autre espèce. Donc ça veut dire en vérité ici on a la Torah a exprimé l'enfant qui prend le lait de la mamelle de celle qui lui donne. Alors la mamelle est attribuée à la mère. Donc c'est la nourriture qui est donnée à celui qui est en train de téter la mamelle pour se nourrir. Donc c'est la situation de l'enfant. Donc l'une, on lui attribue la position, le statut de mère, et l'autre, statut d'agneau. Les Mfarshim indiquent que le Guédi, c'est à la valeur numérique à la même valeur numérique que Tov. Donc c'est la viande la meilleure. Le Tov. Le Tov signifie que la viande, elle est raffinée, elle est épurée, elle est raffinée. Et quand bien même serait-elle la plus raffinée des viandes, malgré tout, c'est interdit de cuire dans le lait. Alors, quelle est la réponse? C'est quoi Mevachel? Pourquoi la Torah, elle a exprimé cela par le bichoul? Le bichoul indique l'action de cuire. Quand on prend une marmite et on met plusieurs ingrédients dedans, alors on peut mettre de l'huile, des oignons, des sauces, etc. On fait une sauce. À la fin, c'est un mélange qui se produit. Tout est mélangé. Il n'y a plus les éléments quand on les cuit. Ils ne sont plus, on les distingue plus en tant que. Il reste un peu de goût conjugué. Mais c'est un véritable mélange. Et c'est ça ce que la Torah veut mentionner à travers le mot levachel. Il ne s'agit pas de... C'est-à-dire, si on prend de la viande et on la cuit dans du lait, alors la viande, quelque part, elle va perdre son goût initial. Et elle va s'imprégner d'un autre goût. Donc les goûts vont être on n'arrivera pas à remarquer le goût premier de la viande, ce qu'elle était au départ. Ça perd un peu la nature des choses. Chaque élément perd un peu de sa nature. Alors il y a ici une grande question qui se pose, quel est le sens de cet interdit? Alors les Mfarshim, les plus anciens, le Ramban, Rabbi Avraham Saba dans Tzoror Hamor, qui est à l'époque de la sortie, de l'expulsion d'Espagne, et les autres qui ont suivi, indiquent au nom de... C'est mentionné dans le Zohar, que la viande fait référence à la rigueur. La viande est rouge. Elle indique la rigueur. La viande, elle n'est obtenue que par un acte de sanction, de shaitan. La shaitan, c'est mettre à mort la bête. Et on verse le sang. Le lait, quant au lait, c'est la bonté. Le lait est blanc. Il est la production. La Gemara dit dans Bechorot que comment est obtenu le lait. Zedam shenaikar v'naasa halav. C'est le sang qui est transformé en lait. Donc c'est la rigueur qui se transforme en bonté totale. Le fait que la bête tête la mamelle de sa mère, c'est que ça procure une double bonté. Donc ça soulage la mère et ça nourrit l'enfant. Donc c'est véritablement le lait et le symbole de la bonté parfaite. La bonté pour celui qui le donne, qui le fabrique, qui le donne, et pour celui qui s'en nourrit. Double bonté. Alors nous disent les commentateurs qu'il n'est pas concevable, qu'il n'est pas indiqué de mélanger les rigueurs et les bontés. Et à ce propos, la question se pose. N'est-ce pas là? Et d'ailleurs, comment sait-on ce mélange-là, et ce qui amène les Mfarshim à dire que ce mélange de Bassar Vechalav, il est le mélange des rigueurs et des bontés, c'est un autre mélange qui est mentionné dans la Torah. Tu ne tisseras pas le lin du lin et de la laine. Alors le Shartnez, c'est de mélanger les éléments. Alors c'est quoi le lin? On attribue au lin la rigueur, le concept de rigueur, puisque c'est le corban, le sacrifice qu'a offert Caïn. Caïn a offert un sacrifice de rigueur et il n'a pas été agréé, alors que Havel a apporté un sacrifice de bonté. Donc la laine, on attribue à la laine la qualité de bonté. La laine est soyeuse et douce, alors que le lin, il est rugueux. Alors lin, donc ces deux mélanges-là, de la même manière qu'il est interdit de mélanger, de faire un fil ou de tisser un vêtement avec du lin et de la laine, parce que ça mélange les éléments se mélangent, et c'est ce mélange-là que la Torah interdit. Alors il en va de même ici pour le Bassar Vechala. Cependant, il y a une idée qui est de raffiner les rigueurs. Toute la Avodat Hashem consiste à atténuer les rigueurs. Le nom de Dieu, exemple, le nom de Dieu, il est écrit Yodke Vavke. C'est le nom de la bonté. Quand nous le prononçons, nous prononçons un autre nom, qui est A, plus loin, Donai. Ce nom-là, il contient en lui le mot Din, c'est la rigueur. Ce nom-là, il s'écrit Aleph, Dalet, Nunyud. Alors, Dalet, Nunyud, c'est le Din. On lui ajoute le Aleph pour un peu l'atténuer, mais c'est un nom de rigueur. Alors, comment fait-on pour atténuer cette rigueur? Alors, on conjugue. On harmonise les deux noms. La Kavana, quand on prononce le nom de Dieu, Yod Kevavke, on le prononce, il est écrit Yod Kevavke, on le prononce A, plus loin, Donai. Alors, on a l'intention est, la Kavana qu'il faut avoir, c'est de lier les deux. Donc, on lit l'écriture, le Yod, il est écrit Yod, mais on le prononce A, Aleph. Alors, on lit le Yod et le Aleph. On conjugue. Après, le Do, il est écrit He, on le prononce Do. Alors on fait He Dalet. On met He Dalet en Kavana. Quand on dit Do, on a la Kavana de He Dalet. Le Nai, il est écrit Vav, mais on le prononce Nun. Alors on associe le Vav et le Nun. Et le haï, il est écrit he, on le prononce yod. Alors on associe le he et le yod. Donc on est en train de conjuguer l'écriture et la prononciation dans l'intention, dans la kavana. Donc qu'est-ce qu'on fait? On mélange. Alors pourquoi ce mélange-là est... Et c'est ça la kavana ce qu'on appelle, ce sont des yehudim, c'est-à-dire on conjugue les lettres, on conjugue les noms de Dieu de telle sorte que les rigueurs s'associent aux bontés et soient apaisées. On peut, il en va de même dans la kavana d'Adlakat Nerot Shabbat. Or, quand on observe le nerf, qu'est-ce que c'est le nerf? Le nerf s'écrit Nun Resh 250. Comment on obtient ce 250-là? Alors, il y a des kavanotes qui consistent à relier les shemot Yod Kevavke avec le shem Ekié, Yod Kevavke avec le shem Elohim, Yod Kevavke avec le shem Adanut, comme nous venons de dire. Alors, tout ça, c'est des conjugaisons de... On relie les, et c'est ça l'intention qu'il faut avoir dans les brachot et dans les ichudim que l'on fait, dans les kiyuma mitzvot, etc. On associe ces deux-là. Donc on est en train de faire ce qu'on appelle des zivugim, des ichudim. On relie les shemot à Kodesh. Alors que là, c'est interdit, formellement interdit. Il ne convient pas, nous disent les chachamim, de mélanger les rigueurs avec les bontés. Alors, quelle différence y a-t-il? De plus, nous observons que dans le cas du lin et du charatnez, du lin et de la laine, il est autorisé de faire du charatnez pour faire la mitzvah tzitzit. Si on a un vêtement de lin, alors on a un vêtement de lin, on met des tzitzit en lin. Mais, le techelet, le fil bleu azur, était tout le temps fait de laine. Donc si on fait un vêtement en lin et on fait les franges blanches sont du lin et le fil bleu, il va être de la laine. Alors donc on aura un vêtement qui est chartnez. Mais pour la mitzvah, c'est autorisé. Il en va de même de la ceinture de Avnet des Kohanim. La Avnet des Kohanim, elle était faite, elle était composée de matières, de différentes matières, mais aussi de lin et de laine. Alors là, c'est permis. Donc on voit que dans certains cas, c'est permis. Et là, dans le Bassavaham, c'est interdit. Alors quelle est la différence, y a-t-il? Pourquoi cela est interdit? Alors il y a une différence fondamentale, c'est que le lin et la laine, en fin de compte, les deux fils sont distincts. Et on les compose. Alors, en général, on peut pas les composer parce que on associe les rigueurs avec les bontés. Mais si on les associe en faisant un acte de mitzvah, alors ça s'appelle plus mélanger, ça s'appelle composer. Et à travers la mitzvah, on va pouvoir exprimer, grâce à l'association du lin et de la laine, l'atténuation des rigueurs et la maîtrise des rigueurs. C'est pour ça que là-bas, c'est permis. Mais ici, si on prend de la viande et on la cuit dans du lait, alors en fin de compte, la viande va absorber... La viande ne sera plus viande à part entière telle qu'elle est au départ. Elle va absorber le lait. Ou bien si on prend beaucoup de lait, on met un peu de viande. Alors le lait, il va absorber, donc de telle sorte qu'on ne sentira plus. Le mélange est tel que le goût qui indique, qui définit la qualité de l'aliment, il n'est plus, on ne peut plus le distinguer tel qu'il est au départ. Donc qu'est-ce qu'il a? Il est mélangé. C'est pour ça que si Chachamim nous disent que la halakha est que si on a une marmite de viande et il y a une goutte de lait qui est tombée, s'il y a 60 fois plus de viande que de lait, que la goutte de lait, alors c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est infime, c'est négligeable, quantité négligeable, elle est plus, on peut plus la distinguer. Alors elle est annulée. C'est-à-dire qu'il n'existe plus en fait. Mais si ça existe, si on arrive à distinguer, alors c'est interdit. Pourquoi ? Parce que chaque élément, il a perdu son caractère. Et c'est ça qui est interdit. Alors, nos maîtres disent que le zivouk des shemot, des middot, la conjugaison des vertus de rigueur et de bonté, c'est quelque chose qui est essentiel. Pourquoi ? Ça permet aux rigueurs de s'atténuer, d'être maîtrisées, de s'adoucir. Dans le cas de Bassar Vechalav, c'est interdit. Parce que là, ce n'est plus qualifié de zivoug, ce n'est plus qualifié de conjugaison, c'est qualifié de mélange. Et le mélange, c'est la pire des choses. Parce que les éléments ne sont plus, on n'arrive plus à les distinguer, ne sont plus définis. Alors, observons, qu'est-ce qu'il est dit là ? Au préalable, il est dit, « Réchit bikore admatra, ta vi bet adona elvecha ». Le réchit, qui indique ce qui a précédé. Réchit fait référence au début, ça fait référence à la sphira de Chochma, celle qui va engendrer la vie. Bikore, c'est le prémisse, le début des prémices, au commencement des prémices, ce qui a commencé, le commencement de Bikurim. Donc en réalité, si on dit que Réchit, c'est les prémices, alors Bikurim aussi, c'est prémices, alors c'est répété deux fois. En réalité, c'est le début de le Réchit des Bikurim. Ce qui indique que c'est le Réchit, c'est la cause première, c'est la bonté totale. Alors cette bonté totale, il convient, c'est ainsi que s'exprime, c'est-à-dire que quand les fruits mûrissent et la terre produit, c'est l'expression de la bonté, de la vie est accordée sur terre. Oui, la vie est possible sur terre. Et c'est cela qu'il faut, donc si c'est la bonté, il faut la ramener, il faut l'introduire au lieu qui lui convient, qui est Beit Hashem. Donc chaque chose doit être placée à la place qui lui revient, au lieu là. Et nous devons placer chaque élément à la place qui lui revient, définir chaque chose dans sa propre dimension, là où il faut le placer. C'est pour ça qu'il est, c'est ça le sens des bikurim. Et c'est le pasuk continue, tu ne cuiras pas le lait et la viande. Donc il ne s'agit pas, le lait et la viande font référence aux dix, les mkoubalim, Rabbi Moshe David Wali, un contemporain, un ami du Ramchal, explique, d'ailleurs c'est, ils sont chavruta et leurs écrits ils écrivent à peu près les mêmes, ils ont la même démarche. Ils expliquent que la viande et le lait font référence à la structure des mondes. Ils font pas référence à la mida propre. C'est comme si que Akadosh Baruch Hu a nommé des fonctionnaires. Un fonctionnaire doit faire le bien, doit faire la bonté. Et un autre fonctionnaire doit faire la rigueur. Il s'agit de fonctionnaires, d'anges, qui ont une mission à accomplir. Alors celui qui est préposé à la bonté, il peut pas faire la rigueur. Et celui qui est préposé à la rigueur, il applique la rigueur. Donc le mélange de Bassar Vechalav, ça indiquerait que l'on mélange les malachim, les concepts qui se mélangent. Donc il ne s'agit pas d'harmoniser les midot de Dieu, mais plutôt de mélanger les fonctions. Et ça, c'est interdit, parce que ça crée... les choses ne sont plus définies, on ne sait plus qu'est-ce qui est. C'est le Yetzer Hara, il fait en sorte qu'on n'arrive plus à distinguer le vrai et du faux, le bon du mauvais. On n'arrive plus à définir, on peut plus dire que telle chose est mauvaise. Tu me juges, aujourd'hui on dit, ah tu as dit c'est pas bien ça, ah tu me juges, qui tu es pour me juger. On n'a plus de... Donc, et le Yetzer Hara fait que tout est bien, tout est mauvais, on ne sait plus où on en est. Les éléments ne sont plus définis. C'est ça l'histoire du mélange. Et c'est ça qui est interdit. Observons, exemple qu'on peut donner, c'est Yaakov Avinu fait l'équilibre, il est à la place, il y a le fléau de la balance. Et Yaakov Avinu, on attribue à Yaakov Avinu le fléau de la balance. Alors la balance, elle a deux plateaux. Le plateau de droite, c'est Avraham qui a la bonté totale et absolue. Le plateau de gauche est attribué à Yitzhak qui est la rigueur totale et absolue. Donc les deux ne sont incompatibles. Alors Yaakov, il crée un équilibre entre eux. Alors à quoi ça correspond? C'est quoi? Alors qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Yaakov, il prend un mixeur, il met Avraham dedans, et il met Yitzhak dedans, et puis il fait un mélange. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un amalgame, quelque chose qui est on n'arrive pas à savoir, c'est un mélange qui n'a aucun sens. C'est pas ça le zivoug. Le zivoug, c'est que Yaakov n'agit pas de la sorte. Parfois, il faut utiliser la bonté. En général, Yaakov Avinu utilise la bonté d'Avraham, mais il l'utilise avec modération. Parfois, il faut utiliser la rigueur, mais aussi il faut l'utiliser avec modération. Donc, il utilise les deux, mais il est modère. Il n'utilise pas la rigueur totale. Il utilise une partie, il veut appliquer la sentence, il juge, le père juge son fils, il a fait une bêtise, il faut le sanctionner. La sanction ne signifie pas qu'il le déteste, donc il a besoin de le corriger. Alors comment il faut le corriger? Avec mesure. Il faut le punir avec mesure, à la mesure de sa faute. Et aussi de manière à ce qu'il comprenne que c'est pas bien ce qu'il a fait. C'est ça le sens de Yaakov. Donc il mélange pas les choses. Il ne transforme pas et fait disparaître la mida de rigueur. Elle existe, mais elle est atténuée. C'est ça le sens. Quand on cuit, on mélange complètement. Les choses disparaissent. La nature de chaque élément disparaît et devient. On n'arrive pas à le détecter. On n'arrive pas à le reconnaître. On n'arrive pas à le définir. C'est le monde du Irpoul, c'est le monde du mélange, de l'obscurité, on n'arrive pas à, les choses ne sont pas claires. Et c'est ça la force du Yetzirah. Et c'est pour ça que juste après il est dit, observons ce que la Torah dit juste après. Il dit, Ine Anochi, Sholeach Malach Lefanecha. Voilà, la Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, voilà, j'envoie un ange devant toi. Il va te garder, il va te préserver en chemin, afin de te faire parvenir à la terre que j'ai préparée pour toi. Donc c'est un ange qui va les guider. Rachid dit qu'il sait, Kadosh Baruch Hu a déjà prévu qu'ils vont fauter le Hegel, donc il va envoyer un ange. Cet ange-là, il va remplir sa mission quand ils vont rentrer en Israël. C'est Yeshua, quand il fait le siège de Jéricho, il a marqué qu'il a vu un ange. Et cet ange-là, c'est un préposé qui est là pour le... Il a eu peur de lui. Cet ange-là, il s'appelle Matat, plus loin Aaron. C'est l'ange auquel Akadosh Baruch Hu, cet ange-là, c'est un ange Sarapanim, c'est l'ange auquel Akadosh Baruch Hu confie la gestion du monde. C'est lui qui englobe le système de la création et qui le gère. Il détient le gouvernail, mais c'est Dieu qui lui ordonne. La valeur numérique de cet ange, Matat, plus loin Ron, elle est de 314, c'est le Shem Shakai. Et ce Shem-là, c'est un Shem de rigueur, puisqu'il est dit, c'est ce nom-là qui a fixé une limite à chaque chose. Chaque chose a sa place, chaque chose a sa dimension, chaque élément de la création possède un aspect, une dimension, un domaine, une stature. C'est de telle sorte que lui, il existe et que les autres éléments aussi peuvent exister. Donc c'est ça le système de la rigueur. Alors il dit, c'est un nom de rigueur. Alors il passe poursuit, il dit, Isha mer mipana, prends garde à lui. Ushma bekolo, écoute bien sa voix. C'est-à-dire, il faut se soumettre à ce qu'il te dit. Alta merbo, ne te rebelle pas contre lui. Pourquoi? Parce que lui, il pardonnera aucune de vos fautes. Pourquoi? Parce que mon nom est en son sein. Donc c'est le nom, quel nom? C'est Shakai. Shakai, la Gemara, elle dit, ce malach-là, il a le même nom que son créateur. Shemo, Keshem Rabbo. Dans Shem Shakai. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, fais attention. Ce malheur-là, il ne va pas pardonner. C'est-à-dire que c'est un malheur qui est la rigueur. Donc, si on n'écoute pas ce qu'il dit, la sanction, elle s'abat. Et quand bien même la Shekhina sera présente parmi lui, la Shekhina étant le concept de la mère, c'est ce qu'il est dit là, tu ne cuiras pas la viande dans le lait de sa mère. Quand bien même, tu dois, ce malheur-là, il n'est pas possible pour lui, puisqu'il est un ange de rigueur, il n'est pas possible pour lui de faire autre chose que la rigueur. C'est cette dimension-là. C'est, alors ici, le pshat, il est comme ça. Il dit, quand il dit, l'oté vachel gedi bahelevimo, alors c'est comme si qu'il a dit quelque chose d'énigmatique, secret, mystérieux, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et iné, après il dit, iné, voici. C'est comme si qu'il va donner un machal, une parabole qui va permettre de comprendre ce qui a précédé. En prenant l'exemple du malheur, qui est de rigueur et qui ne pardonne pas, si on n'écoute pas ce qu'il dit, il ne pardonne pas, on comprend quel est le sens de l'autre Evachel Gedi Bahalavimo. C'est ça l'idée qui est indiquée ici. De telle sorte qu'il convient à présent de comprendre parfaitement la raison pour laquelle il n'est pas convenable de mélanger le lait et la viande. Alors que au sujet de Shatnez, il est possible de faire du lin et de mélanger le lin et la laine pour faire les vêtements du Kohen ou le tzitzit. Pourquoi? Parce que là-bas, chaque élément, il est distinct. C'est l'association des deux qui est interdite. C'est pas, le mélange, il n'est pas de la même nature. À présent, nous pouvons nous rapporter à ce que Avraham Avinu, dans les Farshim, il est dit, dans le Midrash, il est dit qu'Avraham Avinu a donné aux anges à manger de la viande et du lait mélangé. Il les a cuits ensemble, il leur a donné. Et les anges ont mangé. Alors les anges mangent, oui, les anges mangent. Tout ce qui est créé peut manger. Et d'ailleurs, les anges, ils mangent de manne. On dit que les anges, ils mangent de manne. Alors, quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour recevoir Torah, les anges leur ont posé, que viens-tu faire, toi, ici, parmi nous? Alors, la réponse de Moshe était, vous avez mangé chez Avraham Avinu le lait et la viande. Alors, quand ils ont entendu ça, ils se sont apaisés. Ils ont dit, alors, tu peux recevoir la Torah. De quoi s'agit-il? Avraham Avinu a cuit le lait et la viande. Il a cuit le lait et la viande et de telle manière que comme il est indiqué dans les Midrash, l'atid lavo, à la fin des temps, viendra un temps, un moment où le lait et la viande seront autorisés. Ça veut dire que tant que le lait et la viande, chacun séparément ne sont pas épurés des éléments négatifs qu'ils contiennent, or il est interdit de les mélanger. Viendra un temps où les éléments de la création seront épurés des éléments négatifs qu'ils contiennent, alors on pourra les manger. Comment? Comme l'a fait Avraham. Avraham, la table d'Avraham, la maison d'Avraham, Avraham, il vivait dans une autre dimension. Il a tellement travaillé que le lait et la viande, quand il les a cuits, n'ont pas produit quelque chose de négatif, mais ont produit un aliment de telle qualité que c'était de la valeur de la manne. Et les anges l'ont mangé. Donc c'est ça la finalité de la Torah. La Torah doit nous parler. C'est pour ça que les anges ont dit à Moshe, tu peux alors accepter, recevoir la Torah. Si la Torah va permettre, à l'exemple d'Abraham, de purifier les individus jusqu'à parvenir à cuire le lait et la viande et que cela soit autorisé, et non seulement autorisé, et en plus, ce sera de la même qualité que la manne, qui est l'aliment des anges. Alors, véritablement, la progression de la Torah permet à l'homme de progresser du plus bas pour atteindre les niveaux les plus éminents et les plus nobles. Donc, l'homme, il va se transformer pratiquement en un être suprême. C'est ça le sens de ce qui est indiqué ici, et c'est ça le sens véritable de l'interdiction pour le moment de cuire le lait et la viande. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.